Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Citlan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, MakingStarWarsFrance.net et Génération Star Wars et Science-Fiction.
A long time ago, in a galaxy far, far away,
there has been an awakening. Have you felt it?
A communications disruption can mean only one thing.
That thing's operational.
Hello, hello, and welcome to
Star Wars on Direct.
Yes, the voice of Star Wars fandom. The show informs us and entertains us, and it binds the fans together.
If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine.
What a strong one.
Hello, what have we here?
Nice of you guys to drop by.
We would be honored if you would join us.
May the Force be with us.
Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature qui va être consacrée à la novélisation de l'épisode 8, Les Derniers Jedi, et c'est un roman qui a été écrit par Jason Fry. Je suis Danny Pépin et je serai aujourd'hui en compagnie de Sébastien Muneau. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Danny.
Et de Jean-François Richard. Bonsoir Jean-François.
Bonsoir Danny.
Donc, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on s'est parlé. Côté WhatsApp, j'ai continué ma lecture, donc j'ai terminé Canto Bite et vous avez sûrement vu que j'ai fait un petit Star Wars en direct express par rapport à ça. Donc, allez le voir, j'ai apprécié plus que nos deux dernières critiques de Legend of Luke Skywalker et From a Certain Point of View. J'ai été agréablement surpris par deux des histoires, je dirais, de Canto Bite. Ensuite, j'ai pratiquement fini la lecture de Cobalt Squadron. Cobalt Squadron, c'est un petit livre assez court, jeunesse, qui raconte un peu qu'est-ce que Rose et sa sœur Paige Tico. On voit un peu leur mission juste avant l'attaque sur Dakar dans le film. Et puis, du moins hier, c'est-tu hier ou mardi, je me suis procuré le Blu-ray et j'ai finalement vu les scènes coupées. Et le documentaire Making of The Last Jedi, le documentaire c'est The Director and the Jedi. Vraiment, j'ai été agréablement surpris, c'est excellent comme Making of. J'en dirai pas plus parce qu'on va aller, on va en parler dans une prochaine émission plus en détail. C'était pas mal ma semaine. J'ai aussi été faire une petite séance avec mes amis pour me relancer dans Donjons et Dragons. Vous avez peut-être vu une photo sur mes réseaux sociaux, ben j'ai commencé à aider mes futurs joueurs à bâtir leur personnage, incluant ma conjointe, donc c'est quand même intéressant. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de faire la partie, du moins, là. Donc, c'est mon WhatsApp depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Donc, toi, Sébastien, ça fait depuis le 13 novembre que t'as pas participé à Star Wars en direct 2017, faut dire. Donc, qu'est-ce que t'as fait de bon depuis la dernière fois qu'on s'est parlé?
Ben écoute, Danny, j'ai été très occupé côté personnel là, sur un projet qui va bientôt voir le jour, mais dont je ne peux malheureusement pas encore informer nos auditeurs, mais c'est quelque chose qui va être dans la région de Montréal puis qui va être vraiment très incroyable. Mais entre autres aussi, j'ai pris des petites vacances, puis je suis retourné pour une seconde fois à la troisième édition du Star Wars Day at Sea d'une croisière Disney. Alors, les Star Wars Day at Sea, c'est quoi? C'est des croisières de 7 jours qui sont organisées par Disney Cruise Line et qui se passe dans les Caraïbes, dans les Bahamas. Mmh. Et une journée pendant cette croisière est dédiée entièrement à Star Wars, ce qui est quand même assez intéressant. Toute la croisière, la première année avait été intéressante. C'était ma première croisière en même temps. C'était une croisière avec un thème Star Wars, donc j'avais été un peu surpris. Là, je suis à ma deuxième croisière. Je m'attendais à certaines choses. Finalement, ils ont changé plusieurs choses depuis la première fois. Et c'est généralement bon. c'est pas tout pour le meilleur, comme par exemple les photos officielles qu'on peut prendre avec les personnages des films comme Darth Vader, Chewbacca, C-3PO, R2-D2, Boba Fett, tous ces personnages-là. Il fallait s'inscrire à l'avance en ligne. Et si on faisait pas ça, on n'avait pas une place automatiquement, où on pouvait pas, où c'était très difficile d'avoir une place là sur le bateau. Donc ça, c'est un petit
sur le bateau ou ouais, juste pour prendre la photo.
C'est avoir une place là pendant la journée Star Wars pour prendre une photo. Là.
Je pensais que si tu réservais pas un photo hop, tu pouvais même pas acheter ton billet de bateau. Je comprenais pas.
Non, c'est ça. Ben déjà avoir une place sur le bateau, c'est pas évident.
OK.
Mais réussir à avoir des places dans les activités organisées sur le bateau, faut aussi faire très attention puis scruter le site en ligne là, de Disney Cruise Line, parce qu'on peut manquer quelque chose là, si on fait pas très attention.
C'est un peu comme les repas avec les princesses, là, faut que tu te prennes 6 mois d'avance.
Exactement la même chose que les repas avec les princesses. Okay. Donc c'est ça. T'as tout compris.
OK.
Notre invité cette année, parce que les Star Wars des Hatties, ce qui les rend plus spéciales que les autres croisières Disney, c'est qu'il y a des invités spéciaux. Et cette année, la première année, notre invité, c'était Pablo Hidalgo. Cette année, c'était l'artiste Steve Anderson. Pour ceux qui s'en souviendront, qui était présent avec nous en 2005 lors de la sortie de l'épisode 3, Danny avait fait des merveilleuses passes pour l'événement de Citlan.net. Et l'œuvre d'art qui était sur les passes, c'est une œuvre de Steve Anderson.
Mmh.
Et c'est pendant sa conférence que je me suis rendu compte de ça.
Okay.
Donc, j'étais allé le voir par la suite, puis depuis on est amis là sur Facebook et tout, donc j'ai correspondu avec lui un peu. Je vais lui envoyer une copie de des merveilleuses passes que tu avais fait, Danny, là, pour cet événement-là.
Il va dire plagiat. Donc...
Non, en fait, c'est ça. J'étais allé le voir, puis je lui en ai parlé, et puis il m'a dit que ça lui dérangeait pas du tout qu'on ait utilisé ses œuvres pour les raisons pour lesquelles on les avait utilisées, puis que c'était une très bonne idée, puis il était très content là, que ça ait été utilisé de cette manière-là. Donc, cool. C'est ça. La journée Star Wars en tant que telle a été très occupée entre l'invité, sa conférence, les patrouilles de Stormtrooper à côté de la piscine là, sur le pont principal. Apprendre à dessiner des trucs de Star Wars à l'Académie de dessin de Star Wars. Des courses de BB-8 dans le lobby. C'était très drôle. Et bien sûr, il y avait un concours de costumes auquel je n'ai absolument pas pu résister de participer. Et une chose qui est drôle, c'est que le directeur de croisière pour cette croisière-là, c'était l'ancien assistant directeur, Trent, de son nom. C'était lui qu'on avait rencontré la première année qu'on avait fait la croisière, moi et mon ami Simon. Et cette année, il se souvenait de nous encore. Et j'ai eu la chance de parler avec lui puis de lui dire un petit peu là, ce que je comptais faire pour la journée Star Wars au niveau de costumes. Puis je lui ai dit que j'avais 4 costumes. Il a été jusqu'à le mentionner dans son vidéo matinal. Il dit « Oh, j'ai rencontré des gens qui vont avoir jusqu'à 4 costumes différents aujourd'hui. » Donc, ça a été très, très drôle. Éventuellement, vous allez voir des photos là, sur les réseaux sociaux, mais j'ai fait le Stormtrooper en vacances. Donc, j'avais une robe de chambre de Disney Cruise Line et puis mon casque de Stormtrooper sur la tête. J'ai fait un technicien de scan de la Death Star. Et j'ai fait aussi un officier impérial. Et pour clore la soirée, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose de très comique. J'ai donc décidé de participer au concours de costumes en Matt the Radar Technician.
OK.
Étant une des 36 personnes qui possède la même veste que celle qui a été utilisée lors de SNL, j'ai été remarqué assez rapidement à bord du bateau, comme vous pouvez l'imaginer. Et l'animateur du concours de costumes est venu me chercher avant même que le concours commence. Et puis, on a fait une présentation. Et c'est moi qui ai été le dernier à passer, dans le fond, là, avant la présentation des vilains. Et j'ai été Matt de Radar Technician, puis on a fait un peu comme le skit de SNL. Ça l'a fait rire tout le monde. Tout le monde est venu me voir. C'était génial. Donc, ça a été...
T'as pas de vidéo de ça?
Il y a pas encore de vidéos qui ont été postées, malheureusement. Moi, j'ai pas pu m'enregistrer là, pendant que je faisais ça. Je m'y attendais pas, là, admettons. Là, c'était pas prévu. Et puis, pour finir la soirée, on a fini ça avec un merveilleux feu d'artifice et un merveilleux spectacle vidéo sur le pont principal, qui s'est suivi d'un super concours pour les super fans. Et tel que la première fois, je me suis même pas rendu sur la scène principale pour conquérir mon geekdom Star Wars.
Tu vas-tu faire une troisième croisière?
Maintenant que je suis allé dans une deuxième croisière, c'est presque devenu
une tradition.
Une tradition de faire la croisière après un film principal. Donc, dépendant où je serai l'année prochaine à même date, je verrai à voir si je retourne en croisière pour après l'épisode 9.
Est-ce que tu voulais parler du film Solo puis ton événement, Seb?
Alors écoute, pour le film Solo, cette année, je prends un peu une petite pause et j'y vais en solo. Alors, il y a un peu un thème ici. Donc, moi, je vais aller voir le film à une date, à un cinéma, puis je vais probablement aller au restaurant par la suite. Et c'est un peu un système qui m'aime me suivre. Donc, je vais annoncer où je vais aller voir le film et si les gens veulent venir avec moi, ils sont plus que la bienvenue de se procurer leur billet eux-mêmes. Mais je ferai pas de gros événements là, comme j'ai fait dans les trois dernières années. C'est un peu trop demandant là au niveau du temps puis de la gestion pour le peu de temps qu'on a.
Jean-François, après ce long WhatsApp, est-ce que tu peux surpasser ça?
Non, moi ça va être très court. de mon côté, je me suis procuré moi aussi le Blu-ray de The Last Jedi. J'ai regardé les scènes coupées, j'ai commencé le documentaire, j'ai pas fini de l'écouter encore. Et je me suis procuré le jeu Legion qui est paru la semaine dernière. C'est très excitant comme jeu. J'ai commencé à monter mes miniatures, commencé à les peinturer. Donc ça me garde occupé là pendant les prochaines semaines, surtout qu'il y a déjà les premières nouvelles extensions qui devraient paraître d'ici deux semaines. Je pense que Fantasy Flight, ils mettent le paquet pour ce jeu. On va avoir un unboxing sur Legion dans les prochaines semaines.
Ouais, parce qu'en ligne, c'est tout ce que le monde parle présentement, Legion. Je pense que s'il y a un jeu qui va peut-être détrôner X-Wing à moyen long terme, ça va être ce jeu-là, je pense.
Ouais, c'est plus cher, c'est d'investissement, par exemple, que X-Wing. Mais jusqu'à présent, là, de ce que j'ai joué, là, c'est vraiment le fun.
Mais imagine la quantité d'ajouts que tu peux faire avec tous les personnages que tu peux rajouter versus X-Wing, que c'est limité au vaisseau. Donc, tu peux tellement avoir d'extensions avec Legion, c'est comme... Puis toutes sortes d'époques, toutes sortes de... C'est illimité.
Ouais, c'est ça. J'espère qu'ils vont pas juste se tenir à les rebelles et l'Empire. J'espère qu'ils vont explorer d'autres ères de Star Wars, comme la guerre des clones. Ça serait vraiment intéressant de voir une armée de clones puis une armée de droïdes et tout. Puis même d'ajouter les chasseurs de primes dans le jeu, je crois que ça serait le fun.
Ok, comme le un troisième clan, là.
Un troisième clan où juste les mettre, d'après moi, ils feraient partie de l'Empire parce qu'on n'entend pas vraiment parler que les rebelles utilisent les chasseurs de primes. Mais puis le fait qu'il y a des véhicules et tout, ça rend le jeu encore plus intéressant parce que les véhicules, quand t'étais juste un soldat, c'est pas évident d'essayer de détruire un AT-ST. C'est pas comme dans le film, malheureusement. Ça prend pas juste deux morceaux de bois puis le faire tomber là. C'est vraiment fun. Puis il y a beaucoup de potentiel, j'ai hâte de voir les prochaines sorties, mais avec tout ce qui est sorti la journée de parution là, ça garde occupé pendant un bout.
Excellent. Je contiens à mentionner que t'as vraiment acheté tout le jeu.
Ouais, au début, je devais acheter seulement le starter, puis je suis sorti de la boutique avec tout. La commande, quand j'ai commandé, j'ai commandé. Alors, fait que j'allais là pour commander le starter, puis finalement, j'ai fini par commander toutes les extensions qui sortaient en même temps. Fait que c'est ça, j'ai une belle surprise par la poste après ça.
Hey. Fait que là, lequel tu vas arrêter? Armada ou X-Wing?
J'ai vendu Destiny, ce qui m'a aidé à payer pour... Qui m'a aidé à payer pour Legion. Donc j'ai vendu mon set de Destiny. J'arrête X-Wing, ça c'est sûr. Donc Armada, je jouais moins. Puis de toute façon, il n'y a pas tant de vaisseaux que ça. Fait que c'est moins pesant sur le portefeuille vu qu'ils sortent une ou deux extensions par année. Donc c'est ça.
Donc, nos émissions les plus récentes, on a Star Wars en direct Collector numéro 11 où Sébastien Raphaël discute de la rareté des pièces, de l'abondance puis de la déchéance du jouet au cours des années. On a aussi deux Star Wars en direct express, donc celui que je vous parlais plus tôt sur le livre Canto Bite, donc ma critique du roman sans spoilers. Et puis aussi, Sylvain a eu la chance d'être invité chez Disney mardi dernier, de la date qu'on enregistre l'émission. Et puis il a eu la chance de voir quelques bonus et documentaires et il nous a donné ses commentaires directement en revenant de la présentation de chez Disney France. Donc c'est quand même intéressant. Pour notre part, on va essayer de faire une émission plus détaillée sous peu. Surveillez nos réseaux sociaux, on va vous indiquer quand est-ce qu'on va enregistrer ça. Comme d'habitude, merci à nos partenaires Mint Inbox, Star Wars Holonet, SiteClan.net, Planet Star Wars, Star Wars Universe, Making Star Wars France et Génération Star Wars et Science Fiction. Sur ce, on passe à l'hyperespace pour discuter de la novélisation.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Donc, comme d'habitude, on va faire la critique du roman en deux parties. Donc, la première partie qui va être une critique générale sans spoilers. Donc, vous n'avez pas à avoir peur. On va juste donner nos commentaires de façon générale, de façon la vue de 30 000 pieds, comme on dit. Et puis, par la suite, on va faire un avertissement spoilers et on va aller plus en détail dans l'histoire et dans tous les petits détails qu'on a repérés de la novélisation. Mais dans le fond, la partie spoilers, si vous avez vu le film, c'est pas vraiment spoilers. Donc, c'est plus les extras qui peuvent être spoilers pour vous, là, qu'on va quand même discuter. C'est des petits clins d'œil ici et là, des easter eggs, des trucs comme ça. Donc, c'est pas spoiler vraiment sur l'histoire. Vous avez tous vu le film. Donc, n'ayez pas peur de nous écouter juste à cause de ça. Donc, premièrement, nos commentaires généraux. Qui veut se lancer en premier?
De mon côté, j'ai trouvé que le roman était très bien écrit. J'ai trouvé que c'était... Je l'ai vu comme ce qu'on peut dire en anglais, un fan service. C'est vraiment un service pour les fans. Il y a plein de détails vraiment intéressants. J'ai trouvé qu'il y a beaucoup de détails par rapport à l'univers en entour, là, mm-hmm. Le nouvel univers canon, là. Il y a beaucoup de références à l'univers canon. Puis c'est pas juste les romans, il y a des références aux jeux vidéo, il y a des références aux comics de Marvel et tout. Il y a aussi, j'ai trouvé que l'auteur, Jason Fry, il passe beaucoup de temps, il focus vraiment sur, tu sais, comme les noms d'officiers, les titres d'officiers, toutes les pièces, la machinerie. Ce qui me fait penser un peu à Timothy Zahn, parce que dans la trilogie de Tron, Timothy Zahn aussi, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est qu'il donnait beaucoup de détails sur ce qu'on, tu sais, sur la scène qui se déroulait. Donc, qu'est-ce qu'il y avait en entour, c'était quoi les pièces, c'était quoi genre les ordinateurs et tout. Donc, je trouve ça le fun que l'auteur a décidé qu'il a emprunté un peu ce type d'écriture. Il y a quelques scènes qu'on voit pas dans le film qui rajoutent puis qui mettent plus de pesanteur à certaines scènes qu'on voit dans le film, qu'on va parler un peu plus tard. C'est ça. Fait qu'en gros, moi, j'ai très apprécié le livre, comparativement aux autres livres qu'on a reçus dans l'univers canon ces derniers mois. Ça fait du bien d'avoir un livre qui est le fun à lire.
Oui, parce que de ce temps-ci, c'est pas fameux, hein, c'est ça.
Non, c'est ça. Puis honnêtement, peu importe votre opinion sur le film. Si vous n'avez pas aimé The Last Jedi, empêchez-vous pas de lire le livre, parce que le livre, honnêtement, donne beaucoup plus de détails, qui met certaines scènes plus en perspective, mais aussi, c'est vraiment juste un bon livre Star Wars.
Toi, Seb?
J'ai trouvé le livre vraiment très intéressant. Je l'ai écouté en audiobook, donc ça a été une très bonne écoute. Même si un peu longue, on comprend avec tous les détails dans lesquels on entre que... Ça rajoute là, comme JF disait, là, beaucoup au film, parce qu'on peut percevoir un peu ce que les gens pensent, qu'à l'écran on voit pas nécessairement ce que les personnages pensent à ce moment-là dans le dans le film. Donc ça c'est un peu ce que j'attendais de ce livre-là. J'ai été quand même bien servi. Même les scènes coupées là qui ont été décrites là, que ça rend les choses un peu intéressantes. particulièrement le début du livre, là, où tu fais comme quoi?
Ouais.
Donc, mais ça, on va en discuter.
Mm-hmm.
Donc, en tout et partout, agréablement satisfait là, de cette lecture auditive de ce merveilleux livre.
Pour ma part, je rejoins pas mal tous vos commentaires. Pour moi, c'est une des meilleures novélisations après celle de La Revanche des Sith de Matthew Stover. Puis c'est pas seulement une relecture du film comme beaucoup de novélisations, c'est vraiment un ajout. Il y a des choses de plus. Oui, il y a plusieurs scènes supplémentaires qui correspondent aux scènes coupées comme dans toutes les novélisations, comme The Force Awakens. L'extra qu'on avait, c'était les scènes coupées qui avaient été rejetées dans le livre. Mais qu'est-ce qui fait la différence dans celui-ci et puis qui rapproche à la novélisation de Revenge of the Sith, qui pour moi est encore la meilleure, c'est qu'il y a des scènes inédites au roman, puis on rentre dans la tête des personnages. Tu mentionnais ça, Sébastien, on rentre dans la tête des personnages, puis à quoi qu'ils pensent. Ça, c'est vraiment qu'est-ce qui manquait la novélisation de Force Awakens. Je me souviens, ma critique n'avait pas été très très bonne pour la novélisation de Force Awakens. Je disais même aux gens de passer, là, achetez-la pas, sauf si vous êtes un fan de littérature. Donc, celle-ci est complètement l'opposée, là. Vraiment, t'as beaucoup de détails. Écoute, comme tu disais, Seb, on rentre dans la tête des personnages. Écoute, il y a une scène, on rentre dans la tête de Snoke, dans la salle du trône. C'est vraiment, on voit tout ce que Snoke pense. On va aller plus en détail tout à l'heure, mais c'est quelque chose que j'aurais pas pensé qu'il mettrait dans une novélisation si je me fiais à la novélisation de The Force Awakens, la précédente. Donc j'ai été agréablement surpris. Puis un peu comme j'avais aussi beaucoup aimé la novélisation de Rogue One, puis celle-ci je trouve qu'elle est meilleure que Rogue One, même si Rogue One j'avais beaucoup aimé aussi, il y avait beaucoup de trucs supplémentaires. Et toi, Jeff, tu l'as dit aussi par rapport à Jason Fry, il a pris le temps de lire puis de contacter beaucoup d'auteurs de romans et de BD pour s'assurer de faire des liens avec du contenu existant qui se tiennent. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui commencent à être... il commence à avoir des problèmes de continuité déjà dans le canon. Donc, c'est intéressant de voir que lui a pris le temps de contacter d'autres auteurs puis de lire des livres puis tout ça. Il y a même un article, je pense, sur StarWars.com qui décrit vraiment... une bonne partie de la recherche qu'il a faite, puis avec qui il a parlé, puis il fait des références si vous voulez voir un peu à quoi on va parler un peu plus tard. Mais j'ai vraiment apprécié cette novélisation-là. C'est une des bonnes, donc ça vaut la peine d'acheter. Ceux qui hésitent, n'hésitez pas. Comme Jeff a dit, même si vous aimez pas Last Jedi, vous allez peut-être changer d'idée dans certaines scènes, là. En fait, de qu'est-ce que vous avez imaginé de certains personnages, peut-être. Donc, si on donne une note à ce roman-là qui veut se lancer, je vais donner la mienne en premier. Moi, j'ai bien aimé, je donne 17 sur 20. Donc, si vous donnez une note sur 20, qu'est-ce que vous donniez, messieurs?
Moi, j'y vais avec un 16.
OK.
Moi, j'irai avec un 18.
OK. Donc, c'est une bonne moyenne de 17 sur 20. C'est quand même très, très bon.
Ouais.
Donc, on va s'arrêter là pour les commentaires généraux. Je vous fais votre avertissement. On va aller en détail dans l'histoire, mais dans les choses qu'on n'a pas nécessairement vues du film Les Derniers Jedi. Donc, à partir de ce moment-ci, si vous voulez attendre de lire le livre, quittez immédiatement. Sinon, ben, continuez avec nous et ça va juste enrichir votre expérience. Et puis, en même temps, quand vous allez acheter le Blu-ray, ben, vous allez avoir un autre contexte quand vous allez le réécouter. Si vous nous avez écouté et que vous n'avez pas lu le roman tout à fait encore. Donc, on part dans les spoilers. On va commencer avec... il y a quelques scènes complètement inédites du roman, donc qui apparaît absolument pas dans le film, même pas en scène coupée. Donc, la première qui est la plus surprenante, parce que la première phrase du film, c'est que Luke était avec sa femme. Donc, tout le monde était... mind blown, là, le cerveau a explosé, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il vraiment une femme avant d'aller sur Acto? On n'avait aucune idée. Et non, je vais vous raconter l'extrait qu'on découvre que c'était en fait un rêve que Luke faisait sur Acto. Donc, Luke, il est sur Tatooine avec sa femme Cammy. Cammy, si vous vous souvenez, c'était dans les scènes coupées de Star Wars The New Hope, quand il allait à Toshi Station, blablabla, il y avait une fille qui faisait partie du groupe, donc dans son rêve, il s'est marié avec Cammy. Ils n'ont pas d'enfant. Et puis, c'est un peu une réalité alternative où Luke n'aurait pas suivi le message de Léa, de l'hologramme, en fait. Il n'aurait pas suivi R2-D2 lorsqu'il s'est sauvé pendant la nuit. Donc, il n'aurait pas récupéré, il n'aurait pas vu l'hologramme, etc., etc. On apprend que, bon... Owen a été interrogé par l'Empire et puis libéré quelques jours plus tard. On apprend que l'Empire est descendu sur Tatooine puis a tué toute la famille Darklighter, donc Biggs, parce que lui était allé dans la rébellion. Donc la famille Darklighter a disparu. On apprend aussi que Luke a comme métier un mécanicien, donc il est très très bon, un peu comme son père pour faire de la mécanique, réparer des trucs. Et son surnom, c'est Lucky Luke. Imaginez donc. Quand même... le cow-boy qui regarde les soleils, le soleil couchant. Et puis, une autre chose intéressante, c'est qu'on apprend que la Death Star a détruit Alderaan, Mon Cala, donc qui est la planète de Amiral Ackbar, et aussi la planète Chandrila aussi a été détruite, qui est la planète de Mon Mothma. Donc, les trois chefs de la rébellion ont eu leur planète détruite comme exemple. Et ça l'a beaucoup aidé à consolider la peur dans la galaxie et puis de dissoudre peut-être les cellules rebelles. On apprend aussi que Luke a appris de la mort de Princesse Leia, qu'elle a été exécutée après avoir été forcée de lancer un message d'unité avec l'Empire, et elle s'est faite exécuter par la suite, et c'est un message qui était diffusé sur l'Holonet. Donc il a appris un peu qu'est-ce qui s'est passé avec Princesse Leia. Et puis il parle beaucoup avec Camille à la fin du chapitre. Il dit ben, j'ai l'impression que j'aurais dû faire quelque chose. Il y a un pressentiment qu'il y a une action qu'il n'a pas faite qu'il aurait dû faire. Le moment que tu dis j'aurais dû faire ça à un moment donné dans ma vie, puis pourquoi je ne l'ai pas fait, peut-être ma vie aurait été complètement différente. Ben, c'est un peu ça le rêve de Luke. Et il se réveille dans sa hutte sur Acto en sueur. Et puis voilà la première scène inédite. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de ça, messieurs?
Que si ça avait pas été toi, j'aurais jamais eu cette toune-là dans la tête. I'm a poor lonesome Jedi.
I'm a long, long way from home.
You are from nowhere. Cette scène d'ouverture-là, je pense que ça sonnait le glas pour tout le livre. Jason Fry voulait comme secouer les fans un peu hors de leur torpeur de qui a suivi le film de The Last Jedi, là. Mm-hmm. Puis essayer de leur dire le livre est différent, là. Ce que vous allez lire, c'est pas ce que vous avez vu à l'écran. Puis je pense que de commencer le livre avec cette scène-là, ça fait une différence appréciable qui vient tout mettre le ton pour tout le livre au complet par la suite, là. Puis moi, ça m'a secoué, ça m'a surpris. J'ai comme fait, ah ouais, finalement, Luke réussit à avoir Camille, ok, ça, c'était quand même comique. Mm-hmm. comme réalisation, là, dans ses rêves, là, de, mm-hmm. comme tu dis, Danny, là, un timeline alternatif.
Je dirais que ça montre comment Luke est découragé et il regrette mm-hmm. qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui lui est arrivé, dans un certain sens. C'est pour ça qu'il était sur Acto pour mourir, comme il dit. Ben, il regrette tout ce qui est arrivé avec son académie, I guess. Puis c'est là qu'il dit non. Sa conscience lui dit, ah, regarde, c'est ça que peut-être que ça serait passé si t'aurais rien fait.
Moi, quand j'ai vu que c'était un rêve, dans ma tête, c'était comme, OK, ça, c'est un gros FU au monde. Parce que... ça m'a fait penser un peu à la série Dark Horse. Il avait fait des séries comme
Infinities.
Infinities, c'est ça. Donc, ça réimaginait les films avec des versions différentes. Donc, ça m'a fait penser un peu à ça. Puis, j'étais comme, ah, vraiment, là. Mais, comme Sab, il dit, ça, je pense que c'est là pour une raison. Puis, c'est vraiment comme pour secouer. En même temps, ça te montre que, tu sais, dans quel état, comme tu disais, dans quel état que Luke est. C'est dépressif, là, il est prêt, comme tu disais, il est prêt à mourir. Lui, il est là pour tout détruire, tout finir. Là. Moi, je l'ai vu de mère, c'est qu'il regrette vraiment d'avoir pris les deux droïdes, puis d'avoir suivi Obi-Wan, puis tout ça. C'est comme, dans le fond, c'est comme s'il réalise, man, j'aurais pu vivre une vie calme, paisible, pas être où ce que je suis en ce moment, là, mm-hmm. isolé dans le fin fond de la galaxie. Là.
Mm-hmm. Pensez-vous que la première phrase du roman était là pour vendre des livres? parce qu'ils ont quand même fuité les deux premières phrases du livre puis qui mentionnait qu'il y avait une femme. Puis ça m'a fait penser, ils font pas le coup de Marvel avec la fausse femme d'Han Solo encore, là.
Moi, je l'ai vu plus comme, tu sais, je pense qu'ils ont mis ça là. Ça, d'après moi, ça a été changé à la dernière minute. Parce que, tu sais, quand ils ont vu le comment que le film a divisé le monde, ils ont dit, gars, on va mettre ça, puis ça va accrocher le monde. Fait que, tu sais, même, parce que tu lisais les commentaires, même ceux qui ont pas aimé le film, ils lisaient ça, puis ils étaient comme, what? Tu sais, là, comme, ah, ok, là, il y avait le goût de lire le livre.
Mm-hmm.
Je suis sûr que ça va pas changer la façon qu'ils pensent du film, là, mais là, c'était accrocheur, c'était là pour ça, right?
Mm-hmm.
Fait que c'est comme tu dis, c'était un coup de marketing. Ça vend-tu plus de livres? Sûrement. C'était-tu le but? Moi, je pense que c'était le but de dire, je le voyais plus comme, ok, les fans sont divisés. C'est peut-être la façon qu'on peut comme les ramener puis dire, gars, regardez, là, derrière tout le film, tout ça, là, l'histoire, ça vaut la peine.
C'est plus que des effets spéciaux.
Ouais, c'est ça.
Donc ensuite, on poursuit avec une autre scène inédite que elle avait été annoncée. Donc c'était un peu les funérailles de Han. C'est plus une cérémonie en l'honneur de Han qui est sur Dakar. Donc l'évacuation est commencée, mais il a vu quand même faire une espèce de speech de motivation. Mais puis ça ne tente pas d'aller faire le speech, vraiment pas, d'aller faire le discours parce que écoute, elle vient de perdre son mari, etc. Puis bon, mais il y a un de ses officiers qui lui dit, ben tu dois y aller, c'est toi le symbole de la résistance, il faut que tu le fasses. Fait elle va parler aux troupes. Il y a un petit mémorial, puis là, Léa amène une petite figurine que sculptée par Han Solo sur Endor après la bataille d'Endor, qui est, en fait, c'était une petite figurine de Léa, apparemment, qui avait sculpté, mais elle a pensé que c'était un Ewok. En tout cas, c'est une petite blague interne, mais elle l'a laissé comme sur le mémorial. Puis elle se rappelait la première fois qu'elle avait vu les dés dorés accrochés après le Faucon Millennium. Elle mentionnait dans son discours que Han, c'était pas vraiment une canaille, un scoundrel, c'était vraiment un gars qui aimait la liberté puis qui se battait pour que les gens soient libres. Elle a fini justement son hommage à Han Solo avec le discours de motivation pour la résistance qu'il faut retourner au combat tant que la résistance il reste des effectifs, il faut se battre. Et puis là l'évacuation est commencée, puis donc là elle dit c'est pas le temps d'être triste, il faut on a une bataille à aller combattre, on sera triste après le combat. Donc et puis là le monde sont motivé puis il continue l'évacuation.
Ben, ce qui est intéressant de ça, en fait, c'est que ça démontre le pouvoir que Léa a encore dans la Résistance, slash la Nouvelle République, là, que, ce qui en reste. que dans le film, justement, t'sais, on a le petit moment à la fin où ils disent, où elle dit, utilisez mon signal, comme ça les gens sympathiques à la Résistance vont venir nous aider. Finalement, il y a personne qui vient. Ben, c'est un peu ça, là, t'sais, que ça... Quand on arrive à cette scène-là, on comprend que dans l'univers à ce moment-là, Léa est comme redevenue là, la chef de la République. Là.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Je sais que le monde se plaignait pourquoi que les funérailles de Han n'étaient pas dans on le voyait pas dans le film et tout. Après avoir lu cette scène-là, dans le fond, je suis comme ouais, finalement, ça avait pas sa place dans le film.
Ils ont pas le temps, c'est comme ils viennent de revenir.
C'est ça. T'as l'impression là, que dans le film, la façon que ça se déroule, c'est que ils sont partis du Starkiller Base, ils sont revenus sur leur planète, les premiers rats sont juste derrière eux autres. Puis là, c'est que, ah, ok, mais on va prendre le temps de faire les funérailles, tu sais. Ah, je sais pas, c'est bien écrit pis tout là, dans le livre. C'est juste, pour moi, ça avait pas sa place dans le film. Puis je pense que, on va peut-être en parler, là, mais comme la scène, une des scènes coupées qu'il y a dans le Blu-ray, elle fait référence à ça. Puis je pense que la scène qu'on voit dans la scène coupée du Blu-ray, je trouvais que c'était plus sobre comme scène que ce qu'on voit ce qu'on lit dans le livre.
Puis l'autre chose aussi par rapport à cette scène-là, c'est que on entre dans la tête de Léa pendant qu'elle dit son speech, avant et pendant qu'elle dit son speech. Puis on comprend qu'elle a pas envie d'être là. Puis on comprend qu'on a l'impression qu'elle trouve ça important de le faire quand même, de prendre le temps de le faire, puis que si elle veut parler pendant 3 ans, ben il y a pas personne qui va l'arrêter, même s'ils sont en plein milieu d'une évacuation. C'est un peu comique là, mais bon, c'est.
Ouais, c'est ça.
Mais on voit clairement que c'est très très proche après l'épisode 7 parce que Ray vient de partir, puis il commence pratiquement l'évacuation après ça. Ray est parti chercher Luke, puis c'est pratiquement probablement le lendemain qu'ils commencent à pacter leurs choses pour s'en aller, là. Si c'est pas la journée même, fait que on pourrait quasiment faire la suite de la fin de The Force Awakens, puis continuer directement si on considère un peu les scènes de Rey sur Acto exactement la suite, ben on peut imaginer que l'évacuation est exactement aussi la suite. Donc l'autre scène inédite, en fait, est pas tout à fait inédite parce que ça a été un peu tiré justement du roman que je suis en train de lire, Cobalt Squadron. En fait, c'est on voit un Paige Tico et Rose Tico, donc les deux sœurs, sont en train de préparer les bombardiers. Ils sont pas à Dakar, sont plus loin, sont dans un autre système. C'est là qu'on voit comment qu'ils échangent leurs médaillons, que c'est l'emblème du système d'Automac. Elle dit au revoir à sa sœur dit « Ah, je vais être correct, on va se revoir après ». Le Cobalt Hammer, qui est le nom du vaisseau de l'escadron Cobalt. Et puis Rose, elle arrête sur la frégate Ninka. Versus Paige, qu'elle est mitrailleuse un peu, est dans une des petites tourelles sphériques qu'on voit très bien d'ailleurs dans. On a une scène coupée. Et puis, ben, c'est elle qui finalement est la seule survivante, est celle qui réussit à détruire le Dreadnought dans le film. Puis c'est à peu près ça. C'est rien de super intéressant, mais ça montre la relation vraiment entre les deux sœurs avant le film, parce qu'on les voit pas ensemble durant le film. Donc c'est quelque chose d'important quand même pour comprendre un peu plus comment Rose, qui est la petite sœur de Paige, comment qu'elle réagit face à son sacrifice, en fait. Et puis l'autre scène inédite, c'est la dernière scène du roman. Pas tout à fait la dernière, t'as l'épilogue, mais je veux dire la dernière scène qui est comme une scène inédite du point de vue des caretakers, donc des gardiennes en français. C'est sur Acto. Et puis là, on est comme du point de vue de je pense d'un des leaders des caretakers, d'une des leaders des caretakers, comme la sœur-mère, ou je sais pas trop comment on pourrait l'appeler dans cette tribu-là. Puis il mentionne que Luke était un des outsiders, puis qu'il y a tout le temps des outsiders qui viennent. Donc c'est d'autres personnes qui sont sensibles à la force, qui cherchent le premier temple, en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont venus dans le passé, puis il y en a tout le temps qui vont revenir dans le futur. Ils disent que parfois c'est des gens, des bonnes personnes, des fois c'est des personnes qui ont des mauvaises intentions. Puis il dit que le plus récent, qui était Luke, avait ramené des artefacts, avait même appris leur langue. Et puis, il les dérangeait pas trop, il chassait pour sa propre nourriture, etc. Et il avait amené un apprenti. Puis, qu'est-ce qu'il leur a dit au caretaker? Il a dit que Ray était sa nièce. Est-ce que c'est vrai ou pas? On va en discuter dans quelques secondes. Mais ils disent, peu importe la vérité, ils sont maintenant partis. Une fois que Luke est mort, en fait, eux autres, ils pensent qu'il est parti, mais il est mort. Avec les caretakers, ils vont chercher les vêtements, ils les nettoient. Faut mettre dans un petit compartiment. Ils ont une place qui entrepose tous les vestiges des outsiders qui sont venus auparavant. Donc la robe de Jedi, tous les autres artefacts comme la boussole stellaire que Luke avait, ben, ils ont gardé ça. Ils parlent de weapon, donc on peut imaginer le sabre laser vert de Luke. C'est un des trucs qu'il y avait sur la planète. Puis il mentionne aussi que certains objets qui sont finalement de retour sur Acto. Donc j'imagine que certains des outsiders qui ont quitté avaient amené des objets avec eux. Puis peut-être justement le boussole stellaire, c'était un des artefacts qui est revenu à son lieu d'origine. Et il mentionne bien sûr les caretakers, qu'il va y en avoir d'autres qui vont venir. Il y a d'autres personnes qui vont venir au premier temple. Donc ça va peut-être revenir dans l'univers étendu à un moment donné. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Première chose, je vais vous poser comme question. L'histoire de la nièce. Vrai ou faux?
Moi, je pense qu'ils ont mis ça juste pour, tu sais, vu que c'était le gros débat de qui est Ray, c'est qui ses parents. Fait que je pense que c'est juste l'auteur qui a mis ça juste pour, je vais avoir du fun avec les fans. Je vais mettre un petit clin d'œil, là. Fait que d'après moi, ça n'a aucune signification. C'est juste là pour, comme je dis, un clin d'œil, là. Puis comme je te dis, vu que t'sais, le débat depuis t'sais, le réveil de la force, c'est qui les parents de Ray. Mm-hmm. Et le fait, t'sais, l'auteur, je pense qu'il a mis ça aussi comme une genre de blague ou ça en même temps.
Mm-hmm.
Fait que c'est ça. C'est juste ça. C'est ça. D'après moi, il n'y a aucune signification.
Toi, Seb, qui est tout dans qu'est-ce qui est Jedi, philosophie puis tout, qu'est-ce que t'as pensé de ce chapitre-là, le, comme tout le côté qu'il y a plusieurs gens qui retournent là, puis...
Moi, j'ai trouvé ça vraiment... J'ai beaucoup adoré ce chapitre-là. Pour répondre à ta question rapidement, là, pour l'histoire de la nièce, je le sais plus. Je ne le sais plus. Disney joue tellement au yo-yo avec nous, là, que je suis incapable de dire... c'est vrai, ou non, c'est carrément, c'est clair que c'est une joke, là, ou c'est clair que ça n'a aucun rapport. Je suis rendu incapable de déterminer la vérité à cause de Disney maintenant. Mais au niveau de tout l'historique de Acto, j'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'on voit un peu, justement, là, les un petit peu plus, qu'on ait un petit peu plus de l'histoire, puis que ça soit pas qu'on reste pas avec juste là, l'idée là, que c'est une île avec puis c'est là qu'il y a le premier temple Jedi là. Bon, il y a un petit peu plus que ça là, derrière tout ça, donc j'ai trouvé ça intéressant là comme prémisse. Puis l'idée qu'il y a peut-être d'autres gens qui pourraient venir éventuellement faire leur tour, ça aussi c'est intéressant, puis je pense qu'on va pouvoir en reparler un petit peu plus tard quand on va se mettre à parler de Snow.
Donc ça c'était les scènes inédites. Maintenant on a des scènes d'autres nouvelles scènes qui n'étaient pas dans le film mais qui correspondent à des scènes coupées. Donc Jean-François, est-ce que tu peux un peu nous décrire les différentes scènes qui étaient coupées qu'on voit dans le Blu-ray? Qu'est-ce qui correspond dans le roman ici, qu'il y a des scènes qui sont coupées qui ne sont pas aussi dans le roman?
Ah oui, ben on a parlé un peu tantôt quand on parlait des funérailles de Han, qu'on voit une des scènes qu'on voit dans le Blu-ray, c'est Luke qui quand il est seul, c'est comme s'il pense justement à Han et tout, puis là en même temps ça fait réflexion à Léa qui est dans le vaisseau, je me souviens plus c'est quel le nom du vaisseau là. Mm-hmm. En tout cas, dans le vaisseau, où il y a toute la résistance, puis que, tu sais, on pensait qu'elle réfléchissait sur qu'est-ce qu'elle allait faire, mais dans le fond, pour elle, c'était sa façon de passer à Han, puis c'était comme, c'est là qu'elle est en deuil. Donc, je trouvais que cette scène-là, c'était plus fun que, pour moi, ça avait plus d'impact, cette scène-là, que la scène qu'ils ont mis dans le roman. Pourtant, c'est une scène qui est pas longue, mais comme je dis, j'ai trouvé celle qui était dans le roman un peu trop inutile. Je pense que ça a été mis juste pour être mis, pour dire, ah oui, ok, on fait des funérailles pour Han, mais avec l'histoire, ça, je trouve que c'est un peu étrange. Donc, la plus grosse scène, c'est sur Acto. On voit Rey qui voit des bateaux qui arrivent, ou des raiders qui arrivent dans le village des caretakers. Puis là, elle est là, oh, faut faire quelque chose, faut les aider. Puis là, Luke, il est en train de dire non, 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 c'est pas notre place, tout ça. Puis là, Ray, elle décide qu'elle y va, c'est un coup de tête à part. Puis elle arrive là, tout ça pour savoir que c'était comme une
fight.
Ouais, c'est ça, c'était une fight. Fait que c'était comme un autre village qui s'est joint au village où ce que le temple Jedi. Puis que là, ils célébraient tous ensemble. Fait que là, Ray était super frustré après Luke, parce que là, Luke, il dit, tu vois, là, il dit, t'es parti, là, comme ça, il dit, c'est ça que la résistance a besoin, elle a pas besoin là, de quelqu'un qui croit en une religion ou quoi que ce soit. Puis là, elle, Ray, a dit, moi, je croyais en la légende de Luke Skywalker, mais elle dit, tu sais, finalement, c'était, tu sais, j'y crois plus, là.
Mm-hmm.
Puis là, c'est comme, ils restent les deux pendant la soirée. Puis là, c'est là qu'elle voit Luke, puis il se parle, puis là, c'est comme, elle commence à avoir de la sympathie pour lui, elle commence à comprendre c'est quoi qui a passé au travail et tout. Donc ça, je trouvais que c'était bon, parce que ça mettait un peu plus de contexte à la scène coupée qu'on voit sur le Blu-ray. Parce que la scène sur le Blu-ray, ça l'arrête après que, tu sais, Ray a dit, ah, moi, je croyais à la légende de Luke Skywalker, mais puis maintenant, là, ça l'arrête là. Fait que là, c'est comme ce qu'on voit dans le livre, c'est un peu plus élaboré.
Et puis, on voit que Luke... invite Ray à danser dans le livre. Ouais. puis apparemment Luke est très bon danseur, mais Ray a jamais dansé, elle, fait qu'elle avait de la difficulté, mais Luke est un très bon danseur.
Ouais, c'est ça. Donc une autre scène qu'il y a qu'on peut voir, qui est dans les scènes coupées du Blu-ray, il y a, donc dans le fond, c'est tu vois Finn qui est assis, puis il regarde le bracelet que Léa avait qui permettait de contacter Ray. Il l'a dans les mains, puis là, il y a BB-8 qui arrive à côté de lui, puis que là, il le regarde, il essaie d'y parler, puis là, Finn, il est comme concentré sur quelque chose, puis là, BB-8, il fait jouer un message qui était, dans le fond, il a enregistré le dernier, quand Rey était assis à côté de Finn, dans la fin du Réveil de la Force, puis qu'elle lui dit, on va se revoir, j'y crois, puis tout ça, puis qu'elle donne un baiser sur le front. Fait que là, Finn, il regarde BB-8, il dit, ok, c'est étrange que t'as enregistré ça, mais il dit, là, je comprends ce que j'ai à faire, puis là, c'est là qu'il décide de partir chercher Rey. Il y a aussi la scène où, dans le vaisseau de la Résistance, Finn, il arrive face à face avec Poe, puis là, Poe, il donne son manteau qui coule. Je sais que dans le livre, on le voit, ça décrit qu'il coule, lorsqu'il coule le manteau, mais dans le film, la scène coupée, on voit juste qu'il y a comme des broches ensemble. C'est vraiment là que si genre il étire un peu le manteau, ça va tout se défaire. Fait que là, il donne à Finn, puis il dit, ah, tiens, j'ai coupé ton manteau pour toi. Puis une autre, puis une des scènes les plus drôles, c'est donc quand que Finn, DJ et Rose sont dans le Mega Star Destroyer. Il arrive dans un ascenseur, et dans l'ascenseur, il arrive à un étage, puis il y a des Stormtroopers qui rentrent dans l'ascenseur avec eux, et un des Stormtroopers qui reconnaît Finn, puis qui commence à lui poser des questions, puis qui est tout content, parce qu'il est comme, ah, t'as eu une promotion, puis là, tu sais, il donne une tape sur ses fesses, puis c'est comme, hey, bravo, c'est bon pour toi. Fait que c'est vraiment drôle, là, quand vous regarderez les scènes inédites là, sur le Blu-ray, c'est vraiment une des scènes les plus drôles. Puis la dernière scène qu'il y a, c'est encore sur le Mega Star Destroyer, Hux qui prend le collier de Rose, puis qui parle justement de la planète Automac, où ce que Rose et Paige vivaient. Ouais. Fait que là, Rose, d'un coup de rage, elle commence à mordre la main de Hux, puis c'est ça, là, il laisse tomber le collier, parce qu'il dans le fond, c'est qu'il a ramassé le collier qui était à terre, il l'a mis sur elle, dans un entour du cou. Puis là, c'est là qu'il disait, ah, c'est comme genre, c'était des vermines, puis tout ça sur la planète. Mmh. Fait que là, elle décide de le mordre.
Tu vois clairement que c'était lui qui était probablement à la tête de l'attaque sur cette planète-là.
Ouais, c'est ça.
Sur cette planète-là, ouais.
Et donc, c'est ça, en gros, les scènes Blu-ray qu'on peut voir dans le roman.
Donc, déjà, il y a beaucoup, beaucoup de contenu supplémentaire qu'il n'y a pas jusqu'à présent. Il y a énormément de petits détails ici. Et là, je sais pas si. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai une longue liste, mais dites-moi c'est quoi vos petites références que vous avez beaucoup aimées, puis je compléterai avec les choses qu'on n'aura pas mentionnées. Donc, je sais pas, Seb, si tu as des petites références que tu as trouvées intéressantes tout au long du roman, qui n'était pas une scène coupée puis qui n'était pas inédite, c'était juste une référence soit à la littérature, jeux vidéo ou des trucs comme ça.
Il y a eu une référence à Inferno Squad.
Mm-hmm.
Ça, j'ai trouvé ça intéressant.
Inferno Squad, pour ceux qui se demanderaient c'est quoi, c'est dans Battlefront 2, la campagne qui fait référence à la fin de la deuxième extension quand la fille
quand Aiden Versio.
Jyn Versio arrive en orbite avec Dakar, ils sont déjà en train d'évacuer et puis elle dit ben on a besoin de que vous allez rejoindre des connaissances dans l'Outer Rim. C'est Léa qui donne ce message là puis qui envoie vraiment les deux survivants de Inferno Squad aller chercher des gens pour les aider en fait.
Il y a eu une citation qui est un peu comique parce que, en tout cas, moi, je la considère comme étant une citation d'Obi-Wan, là. Si on se base juste sur les films, si on continue dans les livres après, je pense à autre chose, mais any landing you can walk away from is a good one. Ça, c'est suite à l'atterrissage de Finn sur la plage sur Canto Bight, parce que ce qu'on apprend dans le livre, c'est que c'est Finn qui pilotait la navette, là, lors de l'atterrissage. Il y a une chose, c'est le fait que les dés en or, c'est les dés avec lesquels Han a gagné le faucon. J'ai un peu accroché là-dessus, moi.
Moi aussi. Parce que tu dis, ben, il me semble que c'est supposé être une game de sabacc.
Exact.
Mais c'est peut-être dans le sens que c'était des porte-chance, plus que avoir joué avec.
Moi, j'ai l'impression que l'histoire du fait que le faucon a été gagné lors d'une partie de sabacc va être changée au mois de mai.
Ouais, c'est qu'on va apprendre que le Sabacc, c'est un jeu de dés, non un jeu de cartes.
Ouais, ben, c'est ça. Sabacc, c'est Star Wars Destiny, le jeu. Ouais, fait que t'as des dés et des cartes.
C'est ça, t'as les deux. Ben, moi, une des premières scènes qui m'a marqué, qu'on voit dans le film, mais qu'on voit d'une autre facette dans le livre, c'est la scène du Dreadnought avec le capitaine Kennedy. Puis, on voit que le capitaine Kennedy, lui, c'est un ancien impérial. Il est habitué à une certaine manière de faire les choses et tout. Puis, il s'est comme ramassé avec l'armée du premier ordre suite à la bataille de Endor. Et ce qu'on voit, c'est qu'il trouve... En tout cas, c'est drôle, mais on a l'impression que toutes les jeunes, toutes les recrues du premier ordre, c'est des milléniaux.
Okay.
Puis que le capitaine Kennedy, c'est un baby boomer. Mm-hmm. Fait que là, il se plaint qu'ils font pas les choses dans la bonne manière de faire les choses. Puis qu'ils sont comme paresseux ou quoi que ce soit. Puis qu'ils ont comme pas d'initiative ou de bonne initiative. Donc, c'est ça qui, au final, là, va avoir coûté la perte du Dreadnought, là, du premier ordre. Ça, cette scène-là, ça m'a... Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Là.
Mm-hmm.
Donc, ça, c'est la première scène, dans le fond, là, qui m'a... Ben, c'est une des scènes là, qui m'a pas mal accroché. Après, une scène avec Snoke, mais pas la scène avec Snoke, l'explication de comment est-ce que le Premier Ordre réussit à suivre la résistance en hyperespace. Puis c'est là qu'on se rend compte que, dans le fond, c'est presque plus un jeu de dés que un tracker en tant que tel. Là.
Ouais, le Hyperspace Tracker, en fait, c'est que c'est un programme qu'ils ont fait qui analyse des millions de données de trajectoires que les vaisseaux ont faites depuis plusieurs années. Donc, ils analysent toutes les statistiques, en fait, puis ils vont vers la plus grande probabilité du vaisseau qui aurait pris cette route-là le plus souvent, ou aussi qui serait arrêté, puis souvent c'est le bon point. Donc c'est un peu un jet de dés mélangé avec des statistiques un peu là.
Ouais, fait que ça j'ai trouvé ça intéressant qu'il nous l'explique du côté du premier ordre et non pas juste du côté de la résistance.
Toi, Jeff, t'avais une scène particulière que tu voulais mentionner?
Moi j'en ai deux. Mm-hmm. La première, puis je sais que tout le monde parle de la scène de Snow, mais moi, ce qui m'a retenu le plus, c'est que Rey, c'est une manifestation de la force cosmique.
Mm-hmm.
Donc, on apprend que la force cosmique a manifesté Rey par volonté. Donc, on apprend que la force cosmique, elle s'est comme endormie, s'est mise au repos une fois que les Sith ont été détruits à la fin du retour du Jedi, mais elle s'est réveillée une fois que Luke était en exil sur Acto.
Mm-hmm.
Fait que pour moi, ça, c'était comme la grosse... ça fait, il y a comme un peu un parallèle avec Anakin Skywalker.
C'est ça.
Qui aurait été conçu par la force.
Mm-hmm.
Par la force, mais par Palpatine avec la force. Donc, pour moi, c'était le parallèle. La deuxième, pour moi, qui j'ai trouvé... qui m'a frappé un peu, ben pas frappé, mais je m'en doutais un peu, mais c'est que quand Kylo Ren attaque le vaisseau de la résistance, il hésite à tirer sur Leia parce qu'il s'en sent et tout, puis là c'est comme son wingman là, qui tire dessus. Ben, on apprend que Kylo, il aurait sauvé sa mère avec la force, il aurait arrêté le missile avec la force, mais il a tellement été surpris par ce que son wingman a fait qu'il n'a pas été capable. Il a comme été pris en état de choc, là, où il a été
très dépourvu.
Ouais, au dépourvu, c'est ça. Donc, il a pas pu agir rapidement pour sauver, pour arrêter le missile.
C'est ça, ils font référence aussi à, justement, à arrêter le missile. Vous dites comment il peut arrêter un missile? Ben, c'est un peu comme il a arrêté le tir de blaster dans The Force Awakens au début du film. Mm-hmm. Donc, il aurait arrêté le missile en plein dans sa course, là, en fait. Pour revenir sur la force cosmique, l'explication plus large, c'était qu'il disait que les Jedi, de façon générale, suivaient toujours la pensée du Living Force, donc la force vivante, mais qu'il y a un niveau supérieur qui s'appelle la force cosmique, puis c'est une force qui a une volonté, qui est alerte, puis qui a un rôle, tu sais, comme Puis c'est ça que tu disais, là, quand les Sith se sont terminés, elle s'est endormie, puis elle s'est réveillée. Puis Luke, il voit Rey très, très brillant dans la Force, puis il voit même Léa briller, mais très, très loin. Donc, il est capable de la voir quand même, Léa, dans la Force encore, là, malgré qu'il est sur Ecto. Bon, une des scènes intéressantes pour moi, bien sûr, tu avais tout ce qui est dans la tête de Snoke. On apprend, pas vraiment sur son background, mais un petit peu, là. En fait, il a appris par une leçon qui est qu'il faut être prudent lorsque l'on interprète des visions du futur. Snoke a appris de cette leçon-là il y a plusieurs années, lorsque la galaxie était jeune et très différente. Donc ça, c'est un clin d'œil sur... il y a quel âge Snoke? Il a interprété une vision du futur puis a appris une leçon, donc il a manqué sa shot. Il s'est trompé. C'est tout ça qui lui est arrivé physiquement, en fait. Est-ce que il a essayé de faire quelque chose qu'il avait vu dans une vision du futur puis ça a complètement pas été qu'est-ce qu'il pensait qu'il arriverait puis il s'est fait blesser. Snoke voit que Rey, c'est comme le fulcrum, la pierre angulaire de l'histoire de la galaxie à ce moment-là, quand Rey est dans la salle du trône, vraiment, il voit qu'il y a un événement galactique qui va se passer, là. Il sent ça, là. Il y a un gros un mouvement de balancier qui va arriver, il sait pas trop exactement c'est quoi, mais il sent que c'est un moment angulaire dans l'histoire. Il fait aussi mention que lorsque l'Empire a été dans les régions inconnues, après le plan de contingence de Palpatine, ici on fait référence à la trilogie Aftermath, quand elle était dans les régions inconnues pour se reconstruire, tout le monde pensait que ce serait Gallius Rax, Rey Sloane, Brendel Ox ou Armitage Ox qui deviendraient le leader du Nouvel Ordre. Mais c'est les connaissances de Snoke qui a sauvé l'Empire et c'est lui qui a pris la tête du Premier Ordre. Donc c'est quoi les connaissances que Snoke avait, qui a sauvé l'Empire? Ça, c'est une autre question qu'il nous pose puis qui nous donne un clin d'œil de « Hey, il s'est passé des choses dans les régions inconnues, là.
Hein? » Mais de la manière qu'il l'apportait, moi, j'avais l'impression qu'il disait ça comme si c'était, en fait, comme Snoke vient des régions inconnues, mm-hmm. puis c'est ses connaissances des régions place, inconnues ouais. qui a aidé l'Empire à survivre puis à devenir le Premier Ordre. Mm-hmm. Puis au final, aussi, ouais. c'est ça, c'est lui qui a pris la tête parce qu'il est probablement monté dans les rangs du Premier Ordre, comme étant un peu comme Tron a monté au sein de l'Empire. Là. Il était un advisor. Ben, non, pas un prodige en tant que tel. Là. Ben, c'est sûr que d'utiliser la force, ça a dû l'aider. Mais il était capable de prodiguer des conseils. C'était un conseiller, probablement, à Brendel Hux puis à Rey Sloane. Puis c'est ça qui a fait que c'est lui qui a été capable de prendre le contrôle là, au final.
Mm-hmm. Ben, on apprend aussi que c'est là qu'il a compris la force, qu'il a appris la force. Comment utiliser la force, c'est dans les régions inconnues. Là.
Ouais, c'est ça. Ben, on a l'impression même que la force, elle viendrait des régions inconnues de la manière que Jason Fry l'écrit. Puis ça nous fait nous poser d'autres questions. Là.
Puis une autre chose qui est intéressante qu'on apprend, c'est que Snoke, il est le leader, mais il est là, puis il se pose la question, il dit, moi, je me considère pas comme un leader dans le sens administration galactique. Tu sais, dans le sens de gérer des usines, gérer de l'industrie, gérer de la population. Lui, il trouve qu'il est pas fait pour ça. Même chose pour Kylo Ren. Les deux sont pas faits pour ça. Puis, tu sais, il se pose la question, ben, qui peut s'occuper du premier ordre de ce point de vue-là? Parce que lui, ça, il tente pas de s'occuper de la population, ça tente pas de s'occuper de toute l'industrie, puis tout. Donc c'est quand même un point intéressant aussi du point de vue de Snoke, on voit qu'il est leader, puis il est bien puissant dans la force, mais ça lui tente pas de gérer du monde, ça lui tente pas de gérer un ordre au complet là. Il prend par intérim, probablement parce qu'il a survécu, puis c'est le seul que peut-être qui est assez puissant pour le faire, mais enfin. Puis une autre chose qui est je parlais d'industrie, justement une autre chose qui est intéressant, c'est que il parle beaucoup du Supremacy, qui est le Mega Class Star Destroyer. Puis ils disent que c'est vraiment comme une pratiquement une planète mobile, dans le sens un peu comme une Death Star, mais c'est que le premier Ordre n'a pas de base sur une planète. Il se déplace toujours. Et puis que sur le Supremacy, t'as des usines de production, t'as des centres d'entraînement, t'as vraiment tout ce que t'as de besoin pour gérer un empire, pour construire, pour tout ça. T'as tout ça à l'intérieur du Mega Class Star Destroyer. C'est comme... ils ont comme bâti sur les fondations de l'Empire. Puis ils voulaient pas une capitale fixe avant d'avoir pris le contrôle total de la galaxie. En fait, c'est pour ça qu'ils se déplacent à bord du Supremacy. Donc c'est quand même intéressant d'avoir un petit background par rapport à ça.
Dans la scène dont tu parlais aussi, c'est le fun de voir comment il fait le parallèle que justement d'avoir une capitale fixe comme Osnian Prime,
okay,
ou
ouais.
Alderaan, ben ça peut être un point de fragilité.
On apprend aussi que Palpatine a senti Snoke avant sa mort,
mm-hmm.
Qu'il l'a senti à travers la Force, mais qu'il était pas sûr c'était quoi qu'il sentait. On sait que ben, l'Astor aussi que c'est Snoke, ça le décrit dans mm-hmm. le roman. Là. Mais mm-hmm. sur le coup, Palpatine savait pas c'était qui sentait à travers la Force comme ça. Donc ça aurait été sûrement que quelqu'un que Palpatine aurait tué.
Mm-hmm.
Puis un peu comme Palpatine puis Darth Vader, ben Snoke il est tout le temps considéré tuer Kylo Ren. Donc c'est ça.
D'ailleurs, j'ai été super surpris. Kylo Ren était frustré d'un commentaire que Snoke a dit, puis Snoke a envoyé du force, des éclairs de la Force sur Kylo Ren dans le livre. J'étais comme, voyons donc. Fait qu'il y a une scène, je sais pas si vous vous en souvenez, je l'ai pris en note. Snoke a utilisé du force lightning sur Kylo Ren pendant une fraction, ben pas longtemps, là. Pour lui dire, prends ta place, le jeune. Là.
Ouais, tu me parleras pas comme ça. Là.
Non, c'est ça, exactement, là. J'ai plusieurs petits points, des petits trucs intéressants, des petites informations qui peuvent qui augmentent un peu la compréhension et rajoutent un peu d'humour aussi parfois au film. Donc j'ai plusieurs points, je vais essayer de les passer rapidement. Au début du film, pendant l'évacuation, on sait pendant le film qu'il manque de carburant. Les vaisseaux manquent de carburant pour faire d'autres sauts en hyperespace. On apprend que pendant l'évacuation de Dakar, ils sont en train de siphonner le carburant pour les transférer dans les vaisseaux, pour les amener de la surface de la planète Dakar vers les vaisseaux. Et ils n'ont pas le temps de terminer. Donc, c'est une des raisons pourquoi il manque de carburant pendant le film. Donc, c'est quand même une explication intéressante qui peut expliquer quelques situations dans le film. On apprend aussi que l'amiral Akbar est moins alerte qu'avant. T'sais, il mentionne lui-même, il réfléchit moins vite. C'est la vieillesse. Là. Il est quand même plus jeune, Akbar, là, rendu là. Là. Bon, je sais pas c'est quoi l'espérance de vie d'un calamarien. Mm-hmm. Mais il est rendu plus vieux. Une autre chose qui est plus un petit clin d'œil intéressant, quand Poe Dameron revient de sa mission après avoir détruit un des seuls survivants qui revient de l'attaque, qui revient sur le vaisseau de la République. Il parle aux ordinateurs puis aux techniciens, puis il dit « Hey, c'est à quelle vitesse qu'on a été avec le booster? » Fait que là, il regarde les statistiques, puis il dit « Ouais, OK, avec le booster, tu viens de battre le record de vitesse des X-Wing T-170, puis t'es tout content là, d'avoir le record de vitesse. » C'est comme « OK.
» Je pense que il y a même d'ailleurs aussi un petit clin d'œil au fait que BB-8 enregistre les... ces données-là, tu sais, puis que là, quand BB-8 les transmet, il fait comme il comprend pas pourquoi il a même dû à enregistrer ces données-là, là, que c'était un peu bizarre mm-hmm. pour lui de faire ça.
Mm-hmm. Puis c'est le fun parce que en parlant de BB-8, on le voit qui, tu sais, dans le film, on voit en train de bloquer plein de circuits avec ses multiples bras mécaniques, mais on le voit dans le livre qu'il travaille aussi dans le code, donc il y a plein d'avertissements de qu'il faut faire de l'entretien dans certaines pièces parce qu'elles sont endommagées, puis essaie de ramener des réparations ou des réactivations de systèmes en haut de la liste. Il y a comme une liste de problèmes que les X-Wing a, puis lui il essaie de remonter en haut de la liste. Ok, il faut résoudre les canons, faut que les canons soient capables de retirer. Fait qu'il essaie de remonter la réparation des canons en haut de la liste de réparation par l'ordinateur, etc., la réactivation. Donc c'est intéressant de voir l'arrière-scène de BB-8 qui travaille aussi du côté système, pas juste physiquement en pointant des bras sur les circuits là, comme on voit dans le film là. C'est quand même intéressant. On voyait qu'est-ce que je vais vous dire là, on voyait ça dans un des livres références, mais je pense pas que dans le film on l'a catché. Ray voit les X-Wing dans l'eau, ça on le voit dans le film, les X-Wing de Luke dans l'eau submergée, on le voit dans le film ça? Oui
on le voit, oui.
On le voyait pas clairement que la porte de la hutte de Luke c'était une portion d'une des ailes du X-Wing. Dans le dictionnaire visuel il l'explique, etc., mais si tu fais juste regarder le film t'as aucune idée. Et puis là il mentionnait dans les descriptions, donc c'est quand même intéressant. Le Hyperspace Tracker, Sébastien t'en a parlé. Léa mentionne que après la destruction de Osnian Prime, tous les restes de la République se sont tous séparés. se sont divisés pour aller protéger leur propre monde, leur planète. Les représentants sont tous partis protéger leur propre monde. Donc ça fait que la République est complètement dissoute. C'est vraiment juste la résistance qui est unie pour se battre contre le premier ordre, parce que c'est ça, la République est pratiquement décimée, et puis tous les derniers survivants ont été protégés leur propre monde. Donc ça facilite la tâche du premier ordre. On a aussi appris que Léa, elle a appris à long terme à s'ouvrir à la force. Elle n'était pas un Jedi nécessairement, mais elle a appris à s'ouvrir à la force, et ça l'a aidé pendant sa carrière de politicienne à être capable d'évaluer les gens mieux, de comprendre, d'être dans leur tête un peu. Et puis ça lui permet aussi de ressentir le danger quand le premier ordre arrive en sortant de l'hyperespace. On voit qu'elle est encore sensible à la force, et comme tu disais, Jean-François, dans la scène coupée qu'on voit Luke avoir son deuil, puis là, ça transfère à Léa qui a son deuil. Ça fait comme une connexion avec la force entre les deux. Là. Les deux sont connectés par la force avec leur deuil de Han en même temps. Là.
Ouais, c'est ça.
Ah, la fameuse scène que tout le monde déteste. Léa dans l'espace. on rentre dans la tête de Léa à ce moment-là. Donc, c'est quand même intéressant d'un point de vue littérature. On voit que Léa est prête à mourir. Elle peut abandonner à ce moment-là. Et dans l'espace, elle voit d'autres de ses officiers flotter autour d'elle, puis les morceaux, elle voit les vaisseaux autour se promener, puis... Mais là, elle voit le petit bracelet, le beacon pour retrouver Ray, pour que Ray soit capable de les retrouver, et vice-versa. Puis en voyant ça, elle décide qu'elle peut pas abandonner. Elle peut pas abandonner Ray. Donc elle se concentre, elle s'ouvre à la force du peu qu'elle est capable, puis elle demande à la force... Aide-moi à me ramener au vaisseau. C'est vraiment la force qui guide Léa alors qu'elle est en train de perdre conscience. Là. C'est comme si c'est pas nécessairement elle qui a fait l'action autant que la force l'a vraiment aidé à retourner au vaisseau. Donc c'est un point de vue différent de ce qu'on voit dans le film. C'est pas le Mary Poppins que tout le monde disait qu'on pouvait imaginer. Il y avait une petite dynamique dans sa tête qui était intéressante à lire. Puis ça donne un point de vue différent. Donc ça, j'ai bien aimé cette explication.
Je suis resté surpris quand même que au niveau de ce qu'on voyait dans sa tête, c'était pas, il n'y avait pas vraiment plus de désir de vivre et de continuer à combattre là, pour la résistance. T'sais. Un peu comme ce qu'on avait été porté à croire là, de la part de Rian Johnson. Donc ça m'a un peu surpris. Mais oui, c'était une des scènes que je voulais lire justement parce que je voulais savoir ce à quoi Léa pensait à ce moment-là. Mm-hmm. Donc j'aurais aimé un peu plus, mais bon, on va y aller avec ce qu'on a.
Mais tu sais quoi, le fait que c'est la force qui a fait, qui a décidé de sauver Léa, dans le fond, elle a laissé la force la guider. Là. Mm-hmm. Ben, c'est ça que Luke a essayé d'expliquer à Ray, c'est que c'est pas nous qui devrions manipuler la force, c'est on devrait laisser la force nous manipuler. Mm-hmm. C'est ça qu'il a essayé d'expliquer. Fait que c'est comme un point de vue intéressant parce que c'est la force, c'est ça qu'elle a fait avec Léa. Puis après ça, t'as Luke plus loin qui dit, faut que tu laisses la force, tu devrais laisser la force te guider au lieu d'essayer de guider la force.
Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a parlé dans notre critique une des meilleures histoires du livre Legend of Luke Skywalker, quand il s'en va sur la planète où est-ce que la force s'appelle la marée, où est-ce qu'il parle avec d'autres utilisateurs de la force ou de la marée, eux autres qui appelaient ça, comment qu'il fallait pas contrôler justement la force, fallait laisser la force nous guider. Puis on dirait que c'est la nouvelle philosophie maintenant dans Star Wars, que c'est la force va nous guider, mais faut pas les manipuler. T'sais, c'est pas ok, je déplace une roche, c'est si t'as besoin de la force, fais juste suivre ton instinct, puis la force va te faire qu'est-ce qu'elle veut, en fait. Qu'est-ce que tu devrais faire normalement. Elle va te guider. C'est quand même un point de vue différent qui est intéressant.
Je sais pas si tu te souviens, Danny, au début de New Jedi Order, j'ai trouvé que ce point-là, ça rapportait un peu la leçon que Mara Jade apprend à Anakin, que justement, tu peux utiliser la force pour transporter ton bois, puis le faire léviter, puis tout le kit, mais c'est pas comme ça qu'il faut que tu t'en serves.
Mm-hmm.
Tu sais, faut avoir certains standards pour quand est-ce que tu utilises la force, là. Mm-hmm. Puis ça m'a rappelé un peu là, cette scène-là, là, justement, là, de pas y aller toujours avec la manière la plus facile.
On continue. La bague de la rébellion que Rose a là, elle lui a été donnée par Fossil, la chef du commandement des bombardiers, qui est maintenant morte. Donc je pense que c'est à la fin du roman Cobalt Squadron. Je suis pas rendu là, mais si elle est morte, puis ça se passe juste avant, je soupçonne qu'elle va mourir dans la dernière heure d'écoute qui me reste. Il y a une chose que j'ai trouvée étrange. Ils disent que une explication que Ray semble avoir retenu plein de choses lorsqu'elle a touché l'esprit de Kylo Ren sur Starkiller Base quand elle était en otage. Chose qui a accéléré son apprentissage de la force à Ray sur Acto. C'est vrai que je sais pas si j'ai bien lu, mais quand ils ont eu une connexion avec Kylo Ren, elle a vu plein de choses qui apparemment lui ont aidé à accélérer son apprentissage. Je sais pas si c'est juste une explication qu'ils ont décidé de rajouter dans le roman pour justifier qu'elle est très forte rapidement. Mais Snoke le dit lui-même dans une de ses pensées. Il dit « Ouais, Rey est pas mal plus forte que je pensais dans la Force. »
C'est en fait que les portes de l'apprentissage ont été ouvertes, puis Rey étant déjà une personne très autodidacte puis très débrouillarde, du fait qu'elle a grandi sur Jakku, quand ces portes-là ont ouvert dans son esprit, ben ça lui a montré un nouveau monde, puis depuis à partir de ce moment-là, la Force a été aussi ouverte à elle-même. Donc c'est ça qui a aidé à contrôler la Force là depuis ce moment-là.
Une autre scène que je trouvais un peu comique, c'est que quand Rose, Finn puis se sont fait capturer sur Canto Bight, ben BB-8 il s'en va dans les enregistrements légal de la cour, puis il vérifie comment c'est quoi la caution pour libérer Finn et Rose avec de l'argent, parce que si on le voit dans le film, il y a un joueur qui pense que BB-8 c'est une machine à sous, fait qu'il y a plein d'argent dans son corps, fait que BB-8 regarde c'est quoi la caution pour libérer Rose et Finn, il voit qu'il n'y a pas assez d'argent, donc il décide d'infiltrer la prison pour aller les aider jusqu'à ce que, bon, on sait que DJ les a aidés, ils se croisent ensuite dans le couloir. Donc, c'était quand même intéressant. Pour tous ceux qui ont pas aimé comment Luke a été perçu, d'accord? À un moment donné, Luke, je me souviens plus si c'est exactement après la scène sur les caretakers, l'attaque du village, la fausse attaque qui était finalement une fête. Mais Luke, à un moment donné, s'interroge sur la Force puis son rôle à lui dans la galaxie. Il s'exclame dans sa tête « Rey, you were right, I'm coming with you ». Il dit « Rey, t'as raison, je vais venir avec toi ». Il dit ça dans sa tête, il s'en va voir Rey, puis c'est là que Luke surprend Rey puis Kylo en train de se toucher la main lors d'une projection de la Force. Puis là, Luke, ils arrêtent. Donc, on peut dire qu'à ce moment-là, il a changé d'idée, mais à un certain moment, Luke, il dit « Oui, je t'accompagne, Ray. » Dans sa tête, il dit « Oui, t'as raison, Ray, de tout ce que tu me dis. J'ai un rôle important à jouer, je t'accompagne. » Puis ça, on le voit pas du tout dans le film. Puis tous ceux qui disent que Luke, ah, il est plus pareil, puis tout, Luke s'est rendu compte qu'il pouvait aider. Puis il allait aider. Mais là, la situation que Ray puis Kylo, ils se communiquaient, puis là, Luke a fait exploser la hutte, là, un peu, comme on voit dans... Je pense que c'est la dernière fois que c'est avant que Rey puis Luke se battent un contre l'autre. Donc c'est vraiment à ce moment-là. Donc j'ai été surpris parce que c'est quelque chose que je m'attendais pas du tout. Il y a eu une faille dans Luke qui a dit oui, je t'accompagne. Donc j'ai trouvé ça intéressant.
Je m'en souviens plus, mais pourtant je l'avais mentionné, je l'avais envoyé sur Facebook. J'étais oh my god, il a dit ça. Puis là, je m'en souviens plus.
Un petit clin d'œil quand Rey dans le faucon. Et sur le bord d'embarquer dans un escape pod pour aller sur le Supremacy, puis une petite inscription sur le l'escape pod, c'est marqué propriété de Han Solo, s'il vous plaît retournez. Ça, j'ai ri quand j'ai lu ce petit clin d'œil là. Une chose qu'on n'a pas mentionné tout à l'heure quand on parlait de Snoke qui voit dans la tête de Kylo Ren au moment où est-ce qu'il dit à Kylo Ren tu dois tuer Rey, puis il immobilise Rey dans les airs. Puis tu sais, on se disait comment que Snoke a pas pu voir que Kylo Ren tournait le sabre vers lui. Puis j'avais dit comme théorie, ah, il fait ça, il pense à son sabre, mais il fait tourner l'autre sabre en même temps pour déjouer Snoke, puis c'est exactement ça qu'il fait. Tu le vois dans la tête de Kylo Ren qui est en train de faire ça là. Il est en train de tourner lentement le sabre en pensant à son propre sabre sans que Snoke s'en rende compte pour le déjouer. Donc c'est vraiment ça qui est arrivé. Tu sais, tout le monde disait, ah, ça se peut pas que Snoke l'ait pas vu. Ben, c'est. Je sais pas si ça a été rajouté par la suite ou pas. Mais c'était quand même intéressant. Le fait que le roman a sorti plus tard que prévu, peut-être, a permis justement des ajustements qu'on n'avait pas d'habitude quand le roman sortait la journée du film ou une semaine avant. Là.
Ouais, c'est ça. Moi, j'ai comme l'impression que le fait qu'ils ont attendu pour sortir le roman, ça a permis de voir, OK, c'est où qu'on a besoin de plus d'explications ou qu'on voit pas exactement dans le film. Mm-hmm. Donc, ouais, c'est ça. Il y a sûrement eu des ajustements sur ce côté-là. Là.
Autre chose, on apprend aussi sur les Stormtroopers exécuteurs, donc les bourreaux Stormtroopers. On apprend que les exécuteurs sont... c'est comme un devoir. Il y a des Stormtroopers qui sont choisis de façon aléatoire, un peu comme être un jury à la cour. Et puis, ceux qui sont choisis ont droit à l'anonymat pendant qu'ils occupent le poste. Et s'ils ont à exécuter des gens ou des trucs comme ça, ben c'est eux qui doivent le faire. Donc, c'est spécial de voir le principe que tout le monde peut être exécuteur. C'est probablement que tu es choisi, puis cette semaine-là, ben, tu es exécuteur. Ton code d'identification est bloqué. Personne ne peut savoir qui tu es, qui est derrière l'armure avec la bande noire sur le casque. Là. J'ai trouvé ça quand même intéressant comme explication. Il y a une petite référence, je ne sais pas si c'était-tu avec toi, Jean-François, ou toi, Seb, que j'avais parlé du roman Ahsoka.
Ouais, c'est avec moi.
Bon, tu te souviens qu'il disait que les cristaux étaient comme vivants un peu, puis qu'ils choisissaient leur hôte ou leur propriétaire un peu. Ils parlaient, ils appelaient leur propriétaire, etc. Ben, ouais. Il y a une référence dans lorsque Kylo puis Rey tentent d'attraper tous les deux le sabre de Luke. Tu vois que le cristal, il sent le stress, puis il réagit, puis il décide de s'exploser. Qui fait que le sabre se coupe en deux. Donc, c'était un peu de référence du roman Ahsoka qui mentionne que les cristaux ont comme une conscience, ils ont comme une vie d'une certaine façon. Puis parlant du sabre justement de Luke, à la fin du film, on voit dans le tiroir que Rey a ramené les livres du temple, ben, du premier temple Jedi, les livres qui étaient dans l'arbre, right? Mais dans le livre, il rajoute que Rey a les deux moitiés du sabre laser de Luke. Ça, on le voit pas dans le film. Mais je pense pas qu'ils sont dans le tiroir, les deux moitiés. Donc Rey a en sa possession les deux moitiés du sabre de Luke après l'explosion là, qu'il y a eu. Donc est-ce qu'elle va le rebâtir ou quoi que ce soit, aucune idée. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'elle a ça entre les mains. Donc c'est intéressant.
Juste mentionner rapidement là une autre chose qu'on apprend dans le film par rapport au livre Jedi, c'est certains de leurs noms là.
Mm-hmm.
Moi, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça comique. Là, tu sais, ils disent le Ionomika et le Ramagon et une douzaine d'autres noms qui sonnent de manière mythique.
Ouais, c'est ça. Ça, c'est un autre fait que j'avais noté que j'ai pas mentionné que oui, il y a 12 livres. Puis apparemment, les livres appelaient Ray un peu. Il y avait un petit glow, il y avait un petit brillement sur les. Un petit halo autour des livres qu'il y avait dans la description. Ensuite, on a quelques références au roman et BD. Donc, lors de l'arrivée sur Crate, il y a une grosse référence au roman Leia, Princess of Alderaan, qui explique comment Leia a découvert que son père avait un entrepôt sur Crate, où c'était une des premières bases de la rébellion. C'est là qu'elle a découvert que son père était chef de la rébellion. Puis, une référence après à la BD Storm of Crate, qui est la BD où est-ce qu'on voit le Big Three dans la trilogie classique. Donc après Yavin, la rébellion voulait s'installer sur Crate, puis il y avait même de l'équipement qui avait été déplacé là, mais malheureusement il y a eu des complications, il y avait trop de trafic impérial dans le système, donc ils ont décidé d'abandonner le lieu pour l'instant. Mais ils ont caché toute l'information puis des routes hyperspatiales pour se rendre là, ce qui fait que quand il y a eu le traité avec l'Empire ou un traité pour la Nouvelle République, Léa Akbar, Mon Mothma avait tout gardé, les lieux secrets, certaines routes hyperspatiales secrets, puis des caches d'armes, etc. Fait qu'il avait gardé ça juste en cas. T'sais, en cas que la Nouvelle République s'écroule encore, qu'il y ait encore des trucs secrets quelque part qui puissent se retourner et puis se revirer de bord, comme on dirait en bon québécois, pour reprendre en cas de situation critique. Donc, je trouvais ça intéressant. Petite référence intéressante aussi, lors de la bataille de Crate, Poe Dameron fait un petit discours aux autres pilotes, puis il fait une petite blague, il dit j'avais commandé des X-Wing T-85 avec des cloaking devices, mais ils sont pas arrivés, donc on est pris avec des Ski Speeders. Là, je me suis dit, fais-tu vraiment une Joe ou ce modèle de X-Wing-là existe vraiment en prototype, par exemple? Parce que là, on sait que t'as les T-65 qui sont les X-Wing de la trilogie classique, t'as les T-70 qui sont vraiment les X-Wing qu'on voit dans la post-logie. Mais y a-tu vraiment des T-85 qui existent ou ils faisaient juste une blague, là? Donc, j'ai trouvé ça intéressant.
Mais les T-85, c'est pas les X-Wing dans New Jedi Order?
Ouais.
OK.
Les Stealth Fighters.
Les Stealth Fighters.
Mais justement, moi, c'est là que j'ai
ma réponse, là.
Ah non, c'est les T-65 XJ3. Ah.
OK. Ouais, mais c'est la même idée, là. C'est comme les X-Wing qui peuvent se cloquer, là. Donc,
ouais, c'est ça.
C'est peut-être quelque chose qu'on va voir dans l'épisode 9, là. Ben, peut-être, je dis ça comme ça, mais c'est en référence, ça. C'est dans un roman, là.
Moi, ce que j'ai l'impression, en fait, là, c'est que depuis que Disney ont annoncé la mort de l'univers étendu, puis le début de l'univers...
le canon Story Group, qu'on appelle.
Le canon Story Group, ben le Story Group a tendance à glisser tout plein de stocks de l'univers étendu, de toutes les manières qu'ils peuvent. Puis je pense qu'on le voit beaucoup dans Rebels, on le voit dans des livres comme ça, justement, là. Fait que c'est drôle de voir que... Ah, il y a plein d'affaires que... Non, c'est pas canon, mais... Attendez-vous à revoir Talon Card puis Mara Jade dans des bandes dessinées ou dans une série télé quelconque dans pas long, parce que c'est vers ça qu'on s'en va. Ce que vous considériez comme canon, qu'on considérait univers étendu, on va le re-rendre canon, mais dans le futur, là, tu sais. C'est comme ça que ça sonne.
Ben écoute, si on ramenait Tron, il peut aussi bien ramener Mara Jade puis Talon Card.
Ben c'est ça, c'est puis Shizor puis Guri puis tout le reste du monde.
J'ai pratiquement fini lors de la mort de Luke sur Acto. Je pense pas qu'on l'entend dans le film, mais il y a une voix qui parle à Luke qui dit let go, donc laisse-toi aller. Moi, dans ma tête, c'était Ben Kenobi. Je sais pas si vous, c'était qui la voix pour vous? C'était Ben?
Ouais, moi c'était Ben, parce que c'est exactement ce qu'il dit dans Le Nouvel Espoir.
Let go.
Ouais, quand il s'échappe du... il faut qu'il s'échappe du Death Star, là, puis là, il continue à tirer ses Stormtroopers, puis là, je pense que c'est ça que t'entends Ben Kenobi qui dit « Let go, Luke ». Puis là, tu sais...
Non, il dit « Run, Luke, run ».
Ouais, mais après ça, je pense qu'il... Parce que Luke, il continue, puis là, c'est là qu'il dit à l'enfant comme « Let go ou... ».
OK.
Mais ça m'étonne, Jean-François, que toi, la première personne à qui t'avais pas pensé, c'était Elsa, là, de...
« Let it go,
let it go, let it go ».
Toi qui as des filles, des petites filles.
Hey, écoute, ça m'a même pas passé par la tête. Ah, c'est correct, c'est pas pire. Ça m'empoisonne pas trop le cerveau.
C'est bon.
C'est bon. Et je vais terminer par une autre nouvelle scène. C'est quand tout le monde est à bord du Faucon Millennium après l'attaque de Crate et que tout le monde s'échappe de Crate. Dans le fond, tous ceux qui restent de résistance sont à bord du Faucon. Et puis Léa va dans le cockpit et se remémore la première fois qu'elle a vu le cockpit. Lors de la fuite de la Death Star, lorsque elle et Chewie étaient dans le cockpit pendant que Luke et Han étaient en train de
tirer
des TIE Fighters, ouais, c'est ça. Puis là, elle regarde Chewie et elle dit c'est juste nous deux maintenant, on va trouver une façon. Oh, c'est triste. Mais tu sais, c'est comme une petite phrase, c'est juste nous deux à Star Chewie. On est juste. On est là, on n'est plus le Big Crew, on est deux seulement maintenant. Sniff. Et voilà. C'est un peu vraiment tous les petits détails que j'ai captés lors de ma lecture. Je trouvais ça intéressant.
Petite parenthèse, Danny, dans le film, quand Finn sort la couverte du tiroir là, pour la mettre sur Rose, on semble apercevoir en flou le blaster de Rey et deux autres morceaux de métal.
OK.
Mais sont pas très visibles, puis on les voit sincèrement comme une seconde pendant un pan de caméra. Donc, okay. Est-ce que c'est les deux morceaux du sable laser? C'est fort possible.
Ouais, ça doit être ça. Excellent, mais c'est bien que ce soit dans le film d'abord.
Juste avant que tu finisses pour toutes ces scènes coupées-là, une chose que moi j'ai adoré de ce film-là, c'est l'arc de Finn, où on comprend qu'il faut qu'il fasse son choix, que tu sais, il avait pas nécessairement déjà fait son choix de tu sais, il avait fait son choix de se sauver du premier ordre. Il avait fait son choix de venir en aide à Rey, mais il avait pas vraiment fait son choix de faire partie de la résistance. Puis c'est dans le livre, on voit dans plusieurs scènes là qu'il y a des moments où est-ce que justement il décide de faire son choix de faire partie de la résistance.
Et puis je vais terminer avec une scène qu'on voit dans le film mais qui est pas tout à fait pareille. Donc c'est l'épilogue que j'appelle, donc les enfants dans les étables de Fadir. Qui raconte l'histoire avec les petites figurines, il raconte la légende de Luke qui a rallumé l'espoir de la Nouvelle République, etc. La scène est exactement pareille, à l'exception que le petit enfant n'utilise pas la force pour attraper le balai.
Donc, ouais, mais c'est ce qu'il fait avec le balai qui est important, Danny.
Oui, ben il fait le même move, il le lève comme un sabre laser.
C'est ça.
Dans le fond. Ça, c'est pareil.
Je pensais te la dire, il balaie.
Il balaie.
Ben, dans le film, ils nous ont montré qu'il y avait de l'espoir, puis que la force résidait comme dans d'autres personnes dans l'univers. Mm-hmm. Je pense que c'était un des messages qu'il essayait de convoyer avec cette scène-là. Et quand tu lis la scène dans le livre, dans le fond, quand l'enfant prend le sabre laser puis le brandit comme un sabre, ben prend le balai puis le brandit comme un sabre laser, c'est là que tu comprends que cet enfant-là va grandir pour se battre contre le premier ordre, puis contre le tu sais, contre le evil dans l'univers là.
Donc si on termine notre appréciation là-dessus, est-ce que vous avez un mot de la fin à dire par rapport à ce roman-là?
Moi, j'ai été très content du roman en général. Il y a deux choses qui m'ont déçu. C'est la voix robotisée de Snoke, qui est interprétée par Mark Thompson, là, mais la voix est vraiment très robotisée. Et je pense que celle qui m'a donné le plus de trouble, c'était la voix de Kylo Ren qui sonnait comme une cacane tout le long du livre.
Kylo sort de ce corps.
Et pourtant, il a son casque juste pendant une partie, tu sais, au début.
Puis même avec son casque, tu comprends pas ce qu'il dit. Mais quand il parle, le restant du temps, c'est tout le temps dans une cacane. Puis tu fais comme, mais lâche la cacane, là. Pourquoi? Il y a comme beaucoup trop de déco dans la voix de Kylo Ren dans ce film-là, dans ce livre-là, au niveau de l'audio, là. Mis à part l'interprétation de Mark Thompson, excellent livre, ça vaut la peine d'être lu. Ça nous donne plusieurs petits détails qui ont été malheureusement omis dans le film parce qu'ils pouvaient pas être inclus dans le film. Ça vaut la peine là, d'être lu.
De GF.
Ouais, ben je suis d'accord avec Seb. Moi, comme j'ai dit au début, peu importe ce que vous pensez de The Last Jedi, le film, lisez le livre parce que c'est vraiment là. Si vous aimez là, les livres comme Timothy Zahn ou James Luchino, vous allez aimer ça parce que il y a beaucoup de références, il y a beaucoup de détails. C'est vraiment comme, moi je considère ça comme les bons vieux romans Star Wars. On a l'impression que les derniers romans, c'est faut que ça soit vite, vite, vite là. Mais ça, c'est vraiment là, tu sais, il prend le temps de tout expliquer, de tout détailler, et ça met beaucoup plus de contexte à certaines scènes qu'on voit dans le film.
Tout à fait d'accord, Jason Frey. A fait un boulot vraiment intéressant. C'est un livre pour tous, pas seulement pour les fans de littérature, même si en le lisant, t'as l'impression qu'il a été fait particulièrement pour ceux qui apprécient la littérature, mais c'est bon pour tous. Il a fait un travail de recherche impeccable, plein de références à plein de romans, plein de BD. On l'a dit à Battlefront 2 aussi avec une référence là-dessus. On rentre dans la tête des personnages, ce qui est pour moi un des points les plus importants dans un roman ou une novelisation. Qu'est-ce qui sépare un film d'un roman? C'est que le roman te permet toujours, je parle de Star Wars ou non Star Wars, c'est que les romans nous permettent de rentrer dans la tête des personnages, quelque chose qu'on peut absolument pas voir dans les films, sauf si une narration qui dit qu'est-ce que le personnage est en train de penser. Donc c'est tout le temps l'avantage du roman sur un film, et dans ce cas-ci, on l'a eu, on n'a pas seulement eu une lecture du script adapté. On a eu vraiment un petit peu plus de bonbons, un petit peu plus de détails, des petits trucs qui font sourire. Donc pour moi, c'est ça que ça devrait être, une novelisation. Puis j'espère qu'ils vont continuer dans cette veine-là. C'est un bon choix d'auteur, j'ai été très satisfait, je le suggère à tous. Donc, n'hésitez pas à nous laisser vos impressions sur ce qu'on vient de discuter par email à studiostarwars.direct. Et puis bien sûr, tous nos réseaux sociaux, Facebook, notre compte Twitter, puis notre chaîne YouTube. Et n'oubliez pas aussi de nous laisser des bons commentaires sur iTunes. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas mentionné, mais ça aide toujours au classement, si vous voulez, on soit un peu plus visible. puis aussi sur YouTube, ben, donnez-nous des thumbs up un petit peu sur nos versions sur YouTube. Je sais que c'est pas toujours du visuel, mais même si vous nous écoutez sur YouTube, ben donnez-nous un petit thumbs up en passant. Messieurs, comment on peut vous rejoindre sur Internet?
Moi, vous pouvez me rejoindre sur Twitter à GF Dark Jedi.
Et moi, j'ai maintenant une page Facebook à mon nom. Donc, cherchez Sébastien Minot, vous allez me trouver. Ou sinon, sur la page de Citlan.net.
Et de mon côté, sur Twitter, à l'usager Danny Pépin. Notre prochaine émission, ça va probablement être notre Star Wars en direct dédié au Blu-ray des derniers Jedi. Donc, la date officielle reste à déterminer. Et puis, on vous dit ça sur les réseaux sociaux dès qu'on le sait. Et puis, on va peut-être faire ça live, donc pour vous inviter à venir discuter de ça avec nous. Ensuite, je rappelle que Star Wars en direct va être à la 20e édition de la génération Star Wars et science-fiction, le week-end du 28 et 29 avril 2018 à Cusset. Donc, on va enregistrer un épisode devant public le samedi 28 avril de 17h à 19h, donc 2 heures complètes dans l'espace Jakku, immédiatement après l'animation de Planète Star Wars. Donc, allez à la présentation de Planète Star Wars et puis restez dans la même salle et vous allez avoir 2 heures de Star Wars en direct par la suite. Donc, 3 heures de pur plaisir de discussion Star Wars. Nos sujets, parce qu'on a déjà choisi nos sujets, donc si vous voulez participer, parce que notre présentation se veut interactive, donc on va parler de la division dans la communauté Star Wars et l'élan de négativisme envers la franchise. C'est quelque chose de très actuel présentement. Deuxième sujet, que voulez-vous voir de la trilogie de Rian Johnson et de la série de films de Benioff et Weiss, qui sont ceux qui s'occupaient de Game of Thrones? Et puis, troisième sujet, Star Wars, vivez-vous une saturation personnelle envers la franchise, entre guillemets, films TV et tout type de produits dérivés? Donc, c'est nos 3 sujets principaux qu'on devrait discuter lors de ces 2 heures-là. Donc, si vous nous écoutez que vous avez l'intention d'aller à la 20e édition de Génération Star Wars et Science-Fiction, c'est les sujets qu'on va discuter. Donc, merci à nos partenaires, comme d'habitude, Mintinbox.net, Star Wars Holonet, Citlan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Making Star Wars France, Génération Star Wars et Science-Fiction. De la part de Jean-François, Sébastien et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.